Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Assia Djebbar, 1936-2015. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celle qui est née en Algérie et a vécu entre Alger, la France et les États-Unis. De celle qui a écrit en français et filmé en arabe, de celle qui est née colonisée et comme un pied de nez est devenue académicienne, Kay Conti à Paris. De celle qui était toujours entre deux, à la fois libre et entravée. Sur une photo, on la voit seule fillette parmi les élèves de l'école où son père était instituteur. Lui, le regard rivé à l'objectif, solennel. Elle, la tête tournée, rêveuse, dissipée. Sur une autre, elle pose pour les studios Harcourt, de profil, l'air mystérieux dans la légère brume qui est la marque de fabrique des studios. Les cheveux courts, presque androgynes. Elle a 20 ans, elle est déjà belle. Sur d'autres, plus tard, elle est résolument féminine, les cheveux longs, épais, elle semble consciente de l'effet qu'elle produit. Sur une autre, on la voit dans un manteau d'académicienne brodé de fleurs, qui ne sera pas celui qu'elle portera le jour de son élection. Finalement, elle sera vêtue de noir et blanc, comme un avocat, toujours obligé de plaider sa cause. Alors un an après sa mort, peut-être faut-il enfin écouter cette romancière de la mémoire algérienne, autant que de sa propre mémoire, entre pudeur et exhibition. Assia Djebbar, une écriture de l'entre-deux, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.
J'ai rencontré Assia d'une manière très romanesque, hein, je dirais presque. Alors j'entrais à la Cinémathèque, à Alger, et là donc je descends comme ça, et puis j'entends une voix absolument magnifique, et je vois une femme absolument magnifique, Assia était extrêmement séduisante. C'était en 76. Et là, elle parle, on me présente, elle me regarde avec beaucoup de curiosité d'ailleurs. Elle attendait quoi, hein, de voir tous ces Algériens qui étaient là, qui parlaient de cinéma, qui parlaient de Godard, qui parlaient de... Et elle arrivait de Paris, et cette femme qui venait d'ailleurs, qui était algérienne pourtant, tout de suite, j'ai senti qu'elle était différente, parce qu'elle avait un sens de la liberté que nous n'avions pas. On était pris dans une dogme de la révolution, dans le nationalisme, etc. Et Assia était une femme libre, qui était déjà depuis très longtemps en dialogue avec elle-même.
J'aime tellement danser. D'habitude, on danse quand on est joyeux. Et moi, c'est quand je suis triste ou quand j'ai envie de pleurer que si je danse, tout passe. Vous savez, moi, j'ai été marquée vraiment par ma grand-mère qui dansait. Mais elle dansait jusqu'à entrer en transe. Chaque mois, elle convoquait son orchestre et elle dansait. Et tout s'arrêtait. Mais dans mon enfance ou dans ma jeunesse, c'était les femmes entre elles. Donc il m'a fallu vraiment un courage énorme pour me mettre à danser devant tout le monde.
Assia, par exemple, je me rappelle un dîner chez moi où elle a dansé sur la table. Nous, on était quand même coincés dans une tradition assez conservatrice, familiale, même si on parlait de la Révolution, mais au niveau personnel, on était assez coincés. Mais Assia, elle avait un sentiment de liberté, c'est-à-dire de liberté par rapport aux autres, parce qu'après, quand on lit son œuvre, on découvre qu'en fait, c'était pas du tout une femme libre, ni libérée, c'était une femme qui cherchait la liberté, mais qui n'était pas libre.
Assia Djebbar, une écriture de l'entre-deux. Février 2016, au Petit Palais, la mairie de Paris organise un hommage à Assia Djebbar.
Bonjour à tous, donc, et c'est vrai que vous êtes venus nombreux, puisque plus de 250 inscrits pour honorer une grande dame de la littérature. Moi, je vais l'appeler Fatima Zahra Himalayenne, plus connue sous le nom d'Assia Djebbar. Assia nous a quittés, voilà un an presque jour pour jour, et c'est pour célébrer son œuvre et ses engagements que vous êtes venus. Elle qui, de l'Algérie coloniale à l'Académie française, a permis que des ponts soient jetés, enfin, entre nos deux pays, pour que l'histoire qui avaient malmené ces deux peuples, les avaient même déchirés. Et Cassia a essayé à
ce vestibule, ma mère se couvre lentement du haïk immaculé avec franges de soie et de laine. Je peux entendre encore le froissement du tissu, de ses plis fluides autour des hanches et des épaules maternelles tandis que nous faisons halte dans la pénombre devant la lourde porte. Ma mère, bourgeoise mauresque traversant l'ancienne capitale antique, a besoin de ma main. Moi, à 3 ans peut-être, puis à 4, à 5, je sentirai qu'une fois dehors, mon rôle est de la guider, elle, devant les regards masculins. Nous longeons quelques rues, nous continuons devant une enfilade de maisons anciennes, chacune avec porte de bois peint en vert, en bleu, et présentant une lourde main de bronze pour heurtoir. La marcheuse est ensevelie sous la soie immaculée, elle, dont on ne pourra apercevoir que les chevilles et du visage, les yeux noirs au-dessus de la voilette d'organza tendue sur l'arête du nez. Je la guide comme on le ferait pour une idole mystérieuse.
Nous vivions avec un père instituteur très très sévère.
Sakina Bouchama.
Mais je dois dire que ça n'était pas si pénible que cela. Parce qu'en fait, ce père est extrêmement bienveillant, aimant, effectivement rigide sur notre éducation. Et toutes les vacances scolaires, nous quittions cette petite ville de Mouzaïa et nous allions à Cherchel, dans la famille de ma mère. Et je pense que, aussi bien ma sœur et moi, nous étions très heureuses au milieu de cette famille, mais quand même un peu décalées. C'était effectivement une société essentiellement féminine, alors que nous étions, nous, habitués à voir le père présent au repas qui discutait avec nous.
Et vous parliez, à la maison, vous parliez arabe ou vous parliez français ?
Ma mère parlait arabe et notre père parlait français. Et par la suite, en tout cas avec nous, ma mère s'est mise à parler le français.
J'étais la seule dans la famille à pouvoir aller à l'école française.
À Siadjeba.
Mais j'avais mes cousines du même âge qui restaient à la maison. Elles avaient été enfermées à 7-8 ans. Donc moi, j'étais celle que mon père avait libérée. Et je l'ai toujours sentie comme ça.
Fillette arabe allant pour la première fois à l'école un matin d'automne, main dans la main du père. Celui-ci, un fez sur la tête, la silhouette haute et droite dans son costume européen, porte un cartable. Il est instituteur à l'école française. Dès le premier jour où une fillette sort pour apprendre l'alphabet, les voisins prennent le regard matois de ceux qui s'apitoient, 10 ou 15 ans à l'avance, sur le père audacieux, sur le frère inconséquent. Le malheur fondra immanquablement sur eux. Toute vierge savante saura écrire, écrira à coup sûr la lettre. À 17 ans, j'entre dans l'histoire d'amour à cause d'une lettre. Un inconnu m'a écrit, par inconscience ou par audace, il l'a fait ouvertement. Le père, secoué d'une rage sans éclat, a déchiré devant moi la missive. Il ne me la donne pas à lire, il la jette au panier. Les mois, les années suivantes, je me suis engloutie dans l'histoire d'amour, ou plutôt dans l'interdiction d'amour. L'intrigue s'est épanouie du fait même de la censure paternelle. Dans cette amorce d'éducation sentimentale, la correspondance secrète se fait en français. Ainsi, cette langue que m'a donnée le père me devient entremetteuse et mon initiation, dès lors, se place sous un signe double, contradictoire.
Son père a été une figure ambiguë dans la mesure où c'est lui qui lui apprend la langue française. C'est lui qui apprend à sa famille à aimer les mœurs occidentales parce qu'il est quelqu'un qui admire cette manière de vivre des Français. Mais elle va se rendre compte que dans un des petits événements de sa toute petite enfance, qui je pense va la poursuivre, hein, c'est une histoire qui va la poursuivre, c'est le fameux passage sur la bicyclette dans nulle part dans la maison de mon père.
Aidée du fils de l'institutrice, une veuve, notre plus proche voisine, j'ai ce jour-là enfourché une bicyclette et après quelques tentatives timides, je me suis sentie prête à garder presque seule l'équilibre. Je ne me souviens même pas d'être tombée ou d'avoir eu peur. Mon cœur bat, certes, je vais être autonome, bientôt comme les autres. J'irai faire un tour d'abord dans cette cour, puis à travers le village, libre et volant, m'envolant. Le garçon qui m'aide d'un bras, contrôlant la poignée de la machine, m'encourage doucement. Sur ce, mon père apparaît, revenant du village. Je le vois, je continue à braquer la roue, à... Il a fait comme s'il ne me regardait pas. Il a marché d'un pas vif jusqu'à l'escalier qui conduit aux appartements. De là, il s'est retourné à peine et d'une voix métallique, il m'a appelé par mon prénom, sans plus.
Elle va recevoir sa première leçon de femme algérienne, je dirais.
Je me vois monter en silence l'escalier derrière mon père, qui, lui, entre en trompe dans l'appartement, me tient la porte, la referme, puis s'exclame, comme si la phrase qu'il profère, il la portait en lui depuis son entrée dans la cour. « Je ne veux pas, non, je ne veux pas », répète-t-il très haut à ma mère, accourue et silencieuse. « Je ne veux pas que ma fille montre ses jambes en montant à bicyclette. »
Alors que sa fille a 4 ans. Donc là, tout d'un coup, elle est plongée dans cette réalité qui va la poursuivre tout le temps et sur des questions, je dirais presque organiques, c'est-à-dire sur le corps. À partir de là, on comprend le contenu, je dirais presque sexuel de l'œuvre d'Assia, c'est-à-dire cette barrière que le père va mettre entre elle et son corps. Et sans doute que dans sa vie plus tard, ça sera peut-être la difficulté qu'elle aura de vivre en harmonie avec ce corps. Et c'est sans doute pour ça qu'elle va écrire. Hein. Peut-être que l'écriture vient de là, d'ailleurs.
Pour ce qui est de monter à bicyclette, j'ai scrupuleusement respecté l'interdiction patriarcale.
Sur le plan de la personnalité, c'est celle qui ressemblait le plus à notre père. Elle avait une très forte personnalité. Elle pouvait porter la contradiction très facilement. On savait que les études étaient notre chance et notre porte de sortie, qu'on payait le prix de notre liberté de femme, bien sûr, dans cette société, que les études nous protégeraient de l'enfermement. Je pense qu'il nous a élevés toutes les deux avec l'idée que nous étions asexués. On pouvait côtoyer le monde des hommes, il n'y avait aucun problème, on pouvait sortir, mais qu'il fallait mettre de côté notre féminité, que le risque était quand même dans notre féminité qui, elle, allait empêcher le cours de nos études. Et lorsque, à 19 ans, lorsqu'elle a terminé Pocagne à Alger et que le proviseur du lycée Bugeaud a convoqué mon père pour lui dire « Écoutez, elle est brillante, elle pourrait intégrer normale supérieure, mais jusque-là, aucun de nos élèves n'a pu avoir le concours directement à partir d'Alger. Il serait bon qu'elle parte à Paris. » Et à ce moment-là, ça n'a posé aucun problème à mon père d'envoyer Assia, 19 ans, à Paris. Elle était interne dans un lycée et dans la famille, je pense qu'effectivement, on considérait qu'il prenait des risques très, très grands d'envoyer cette fille de 19 ans seule à Paris.
Et son fiancé était à Paris aussi, je crois, quand elle était à Normale Supérieure.
Alors en fait, il l'a suivie. Il l'a suivie et jusqu'à ce qu'elle en parle un peu officiellement à mon père, en disant voilà, qu'elle avait rencontré un jeune homme de Blida, donc la ville où elle avait fait ses études secondaires, et qu'elle souhaitait l'épouser.
À Sierre-Gébar, je l'ai rencontrée finalement assez tard, au début des années 90.
Michel Perrault.
Nous ne nous sommes plus quittés, même si c'était souvent un peu en pointillé, étant donné la distance géographique qu'il y avait souvent entre nous. Et puis, Je connaissais bien sûr son œuvre, cela va de soi. Je la connaissais aussi par une amie commune que je voudrais citer ici, Christiane Clapiche, qui est une grande historienne du Moyen-Âge et qui a été sa collègue, enfin sa co-disciple, à l'École normale supérieure de Sèvres. Elles étaient toutes les deux engagées dans la lutte contre la guerre d'Algérie. Christiane Clapiche a d'ailleurs été arrêtée pour avoir passé des valises et elle a fait de la prison à la Petite Roquette. Et Assia a refusé de passer l'agrégation, où elle aurait été reçue haut la main, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire, parce que c'est aussi un souvenir historique.
Nous étions camarades de promotion. Voilà, donc ça devait se passer en 1955.
Christiane Clapiche-Zuber.
Tout de suite, elle s'est fait remarquer par son indépendance. À une époque où l'Algérie n'était pas indépendante, mais son indépendance par rapport, je ne sais pas, aux horaires, aux rituels de l'école normale, à la fréquence des cours, à son détachement un peu hautain, mais bien sympathique néanmoins. Et oui, nous étions amis, en fait. Alors, elle était dotée d'un fiancé, ce qui, à l'époque, était très mal vu à l'École normale supérieure des jeunes filles. Nous étions donc des jeunes filles, en principe.
Et comment vous expliquez qu'elle avait comme ça cet esprit libertaire, est-ce qu'on pourrait dire libertaire, en tout cas cet esprit libre?
C'est parce que, je pense, elle était déjà engagée dans la lutte pour l'indépendance. Son fiancé était un militant, très sérieux, mais elle était absolument, elle ne disait rien de tout cela. Hein. Là, elle a été très active pour nous rendre sensibles au contexte de la lutte. Elle n'a pas du tout rechigné à participer à des réunions, disons, des personnes à l'intérieur de l'école qui étaient intéressées par tout ce mouvement de l'indépendance. Et donc, elle nous a affranchis, comme on peut dire, sur justement l'existence de différents mouvements luttant pour l'indépendance, mais éventuellement hostiles. On a appris beaucoup de choses par son intermédiaire.
Combat, 18 mai 1957. Assia Djebbar, première femme écrivain d'Afrique du Nord.
La mode est au jeune talent. Assia Djebbar, nouvelle découverte de Julliard, y sacrifie. Puisqu'elle a juste 20 ans, mais elle fait coup double en donnant à la littérature nord-africaine son premier roman féminin.
La soif est, croyons-nous, le premier roman féminin musulman qui nous vient d'Afrique.
Assia Djebbar, grande fille au visage réfléchi, aux yeux bruns réservés, a une attitude effacée et un sourire lumineux. Son style est bref, nerveux et elle égale
La
François
soif,
Sagan.
Roman passionné et psychologique, retrace le drame de la musulmane moderne, écartelée entre les deux mondes, l'oriental et l'occidental.
François, Assia Djebbar, 20 ans, Françoise Sagan algérienne. Elle obtient un prix littéraire.
23 février 1957,
cette jeune musulmane, Assia Djebbar, a obtenu hier le prix littéraire de l'Algérienne.
Premier roman d'une jeune musulmane,
La soif, témoigne du malaise de la jeunesse dorée
nord-africaine. Assia Djebbar écrit sur le présent.
Cette ravissante jeune femme qui a la gracilité d'Audrey Hepburn et le regard velouté de Gina Lollobrigida n'est pas un mannequin, mais une sévrienne et un écrivain.
En 1957, Fatima Zora Himalayan devient Assia Djebbar.
Le choix d'un pseudonyme, à l'époque, je l'ai vécu essentiellement comme me cacher de mon père. Et non pas parce que j'entrais en littérature, en quelque sorte, je ne l'ai pas pensé aussi gravement, mais simplement parce que ce premier roman, il y avait quand même une vague intrigue qui n'était pas très importante, mais une intrigue amoureuse. Donc il y avait, en tant qu'adolescente, la honte d'écrire sur l'amour, par rapport au père ou par rapport à tout homme de chez moi. Et à ce moment-là, le choix du pseudonyme, je me souviens très bien du jour où je devais signer le contrat chez Julia. Il fallait choisir. Alors, j'avais eu un moment la tentation de prendre le nom de tribu de ma mère, parce que je dois dire que peut-être cette ascendance très ancienne, très ancrée dans l'histoire algérienne de ma mère fait partie de moi. Et je revendique tout autant le côté prolétarien de mon père et le côté berbère de mon père, berbère des montagnes. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait dévider par mon fiancé, qui était un bon arabisant, les 90 épithètes que l'on donne à Dieu. Et j'ai choisi Djebbar, en oubliant de mettre les deux B. Parce qu'il a un double sens. Dans le dialecte, c'est le rebouteux. Mais en même temps, c'est l'intransigeant.
Et même mon prénom que j'ai dû choisir, mais qui maintenant est vraiment le mien, a plusieurs sens comme ça. Sia, ça veut dire celle qui console. Mais en même temps, bon, ça veut dire l'Asie, ça veut dire un nom de fleur, c'est l'immortel, mais je ne le savais pas à ce moment-là, donc je ne serais pas immortelle.
Lorsqu'elle a publié son premier roman, on lui a demandé des portraits, et elle ne voulait pas non plus que son père, ses parents le sachent qu'elle publiait. Elle s'est fait transformer un peu le visage en se faisant faire une opération du nez. Elle avait un nez magnifique, busqué, long, enfin bon, très bon, qui avait sa personnalité, qui lui ressemblait bien. Et pendant un mois, deux mois, trois mois, je ne sais plus, elle ne voulait pas encore montrer son nez, vous voyez, son nouveau nez.
Et qu'est-ce que vous aviez pensé à l'époque, Christiane Clapiche-Dubert, de ses livres, quand vous les aviez lus?
C'était formidable, parce qu'on a dit la Françoise Sagan algérienne, mais c'est, à mon avis, c'était plus intéressant que Françoise Sagan, parce que justement, il y avait un engagement derrière. Ce n'était pas ce désenchantement permanent de Sagan. Hein, c'est... Et nous, on était quand même toutes de mes amies, en tout cas, assez engagées pour désirer autre chose. Voilà. Et ça, elle le donnait quand même, oui. On l'attendait sur la licence d'histoire, et voilà, là aussi, elle a pris ses distances et elle a fait autre chose, oui.
Et elle a été exclue de Normal
Elle a été remerciée, oui. Enfin, parce qu'il y avait trop de choses à son passif, son absentéisme, le fait qu'elle passait pas les examens comme il aurait fallu, ou qu'elle ne voulait pas s'engager, le fait que le fiancé était quand même un peu trop là, etc. Oui.
Comment a été accueilli Beidachiki, le premier livre d'Assia Djebar qu'elle a écrit donc en 57, La Soif, très jeune alors qu'elle était encore en France?
Pas très bien, évidemment, au plan politique. Les jeux d'intrigue n'intéressaient personne à l'époque. On disait que c'était une vision petite bourgeoise et que l'Algérie avait besoin d'autres écrits, avait besoin d'un véritable engagement littéraire. Il fallait parler à ce moment-là de la révolution, il fallait parler de la guerre. On ne pouvait pas accepter un roman qui n'avait rien à voir avec la préoccupation des jeunes Algériens. Mais c'était une erreur, parce que la préoccupation était là. Elle habitait les personnages, elle motivait certaines de leurs réactions. La révolution était là, et elle était également dans le comportement des adolescents, des jeunes filles, des garçons, et le corps commence à se découvrir. Et ça, c'était véritablement une révolution. Et La Soif est quand même un roman source. Il va faire intrusion dans tous les autres romans qui vont suivre. Parce que c'est le roman de la découverte de soi, c'est le roman de l'émoi amoureux. L'œuvre d'Assia Djebar est hantée par l'intime.
Voici les livres que nous allons vous présenter ce soir. Les vacances du petit Nicolas par Saint-Pé et Goscinny. Les enfants du nouveau monde par Assia Djebar.
1er août 1962, lecture pour tous.
Les enfants du nouveau monde par Assia Djebar, c'est le troisième roman d'Assia Djebar, n'est-ce
oui.
pas? Vous êtes algérienne, que faites-vous en ce moment?
J'enseigne l'histoire.
Où?
À la faculté des lettres de Rabat, au Maroc.
Votre roman se passe en 56. Quel en est le décor? Une ville que vous connaissez bien?
Oui, il se passe en Algérie, dans une petite ville pas loin d'Alger. Je peux la nommer, c'est oui. Blida, c'est une ville que je connais.
Vous pouvez faire l'inventaire des personnages de ce livre?
Eh bien, il y a un certain nombre de personnages féminins. Il y a une jeune étudiante, son mari l'a quittée et est partie combattre en tant que combattant algérien.
Comment ces femmes sont-elles mêlées à ce qui se passe, aux événements?
Il y avait dans cette ville un quartier, qui est un quartier musulman qui existe, ce quartier de maisons musulmanes, de maisons avec un patio fermé sur elle-même, fermé sur la rue.
Et
ouverte vers le ciel. Ce quartier se trouve au pied de la montagne. Si bien que lorsque, pendant la guerre, il y avait des périodes d'opérations militaires sur la montagne, eh bien ces femmes musulmanes, qui d'ordinaire ne sortaient jamais dans la rue, de leur chambre pouvaient assister au spectacle de la guerre.
La guerre d'Algérie, elle la raconte dans Les Alouettes naïves, qui va proposer une manière très personnelle, très subjective de vivre la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie, c'est une poussée vers l'extérieur. Ce qui m'a intéressée dans ce roman, c'est la manière dont les femmes vont traverser les espaces. Et cette traversée de l'espace, cette cartographie qu'elle propose, montre que la guerre, ça a été une occasion de sortir à l'extérieur. Elle a commencé à voir le souci de la poétique du roman à ce moment-là, avec les alouettes naïves. Il y a la matière historique, il y a la matière sociologique, il y a l'intimité, mais comment construire le livre ? D'abord les points de vue qui vont changer, la narration qui sera multiple, la description qui sera tout à fait originale par rapport à ce que l'on connaissait. Et c'est là que l'idée de l'image cinématographique par la description s'est imposée comme une nécessité. Ce qui est intéressant également, c'est qu'elle fait parler des hommes, donc des protagonistes masculins, à la première personne. Donc elle entre dans l'intimité des hommes et raconte leur histoire à partir de cette intimité. C'est un véritable laboratoire, c'est une véritable expérimentation.
Peut-être pouvez-vous nous raconter aussi, Sakina Bouchama, comment votre famille a vécu la guerre d'Algérie ? Parce que donc Assia Djebbar est pendant cette période à cheval entre la France, le Maroc, la Tunisie, puis de nouveau l'Algérie.
Alors je dois dire que Assia, quand elle a été admise à l'école normale, le jour même, quand elle a eu ses résultats, a écrit une très belle lettre à mes parents, dans lesquelles elle les remerciait bien sûr pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle, pour la confiance qu'ils lui avaient accordée. Et en même temps, elle disait « Je sais que je fais partie d'un peuple qui crève de misère. Certains veulent l'aider par les armes ou par la politique. Moi, j'ai choisi de l'aider en travaillant et en donnant le meilleur de moi-même dans tous les domaines. » Par contre, notre frère s'est engagé très vite dans le FLN. Ma sœur a quitté Paris, je pense après son mariage, en 1957, en Tunisie. Elle n'avait donc pas fini ses études. Elle a tenté de faire du journalisme en faisant des reportages dans les camps de réfugiés et en interviewant surtout des femmes qui avaient quitté l'Algérie et qui étaient aux frontières de la Tunisie dans des camps de réfugiés. Il n'y a qu'une personne, Frantz Fanon, qui à l'époque donc était là-bas, qui l'a encouragée à continuer à écrire et lui a dit « Écrivez, peu importe ce que les gens disent de votre écriture, mais continuez à écrire ».
Ce soir, une ambiance absolument explosive dans la Casbah. De tous côtés, les drapeaux FLN sont hissés. Des guirlandes multicolores sont tendues à travers des rues et des ruelles de la Casbah. Des affiches, des slogans. Et tout le monde crie pendant des heures, jusqu'à épuisement, sa joie et son enthousiasme. Maintenant que le scrutin d'autodétermination est terminé.
Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis pour la frontière suisse. C'était leur dernier voyage, ils ne reviendront plus. La paix est signée dans quelques minutes. Monsieur Jacques va tenir une conférence de presse à l'hôtel du Perche à Évian. Je m'y rends tout de suite, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les détails supplémentaires.
Par un torrent humain, mon technicien a bien du mal à tenir son magnéto et nous nous laissons emporter littéralement par cette marée humaine, cette marée algérienne qui ce soir donne libre cours à son enthousiasme.
Juillet 1962, indépendance de l'Algérie, Essia Djebar, qui écrivait pour El Moudjahid, journal du FLN, rentre à Alger. Et donc elle revient en Algérie et elle enseigne, elle est une des premières à enseigner l'histoire de l'Algérie moderne et contemporaine. Ça, c'était une nouveauté.
Oui, bien entendu, c'était une nouveauté, oui, parce qu'il fallait construire tout en enseignant. Il fallait inventer une démarche pédagogique pour faire entrer dans les programmes des connaissances d'abord vérifiables. La bibliographie n'était pas très riche, il y avait quelques écrits d'historiens connus algériens, et il fallait construire des cours à partir de ce qui était déjà là. Et faire la part des choses. Elle a fait ce travail et elle continuera de le faire dans ses romans, cette manière de vérifier les sources, cette manière d'analyser, d'interpréter le texte, les textes des historiens. Et elle remonte très loin, elle remonte jusqu'à l'Antiquité.
Oui, et d'ailleurs, elle s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire de l'Algérie colonisée.
L'intérêt était général, il fallait parler de cette période-là. Et à l'indépendance, il fallait reprendre depuis le commencement. C'est ce qu'elle fait dans L'amour, la fantaisie. Elle commence en 1830, l'aube de ce...
L'arrivée
de l'armada française au port d'Alger, à Sidi Ferruche.
Le chemin qu'elle a pris, c'est le meilleur pour répondre à cette question qui était la question dans l'air, c'était la question de tout le monde. Qui sommes-nous ? Parce que la colonisation avait été très dure, elle avait été très dépersonnalisante, l'identité algérienne n'existait plus.
En 62, j'étais, je crois, une des rares femmes à enseigner à l'université, et j'enseignais l'histoire. Et petit à petit, j'ai été dépossédée de cet enseignement parce qu'on m'avait demandé de but en blanc d'enseigner, j'étais un peu spécialiste d'histoire du XVIe siècle, et de l'enseigner en arabe dit classique, en arabe.
Alors que la langue que vous pratiquiez, c'était le français.
Comme langue de travail et d'analyse.
Oui.
Bon, j'ai quitté à ce moment-là l'Algérie un certain temps.
On assiste à l'effacement de la langue française.
Beïda Chiki.
Les effacements qui deviennent un véritable thème d'écriture chez Essia Djebar, de façon explicite, mais chez d'autres écrivains également. Évidemment, c'est un drame. Parce que la langue française est devenue, comme le disait Kateb Yassine, une langue algérienne. On ne peut pas la voir disparaître.
Vous savez, quitter l'Algérie, c'est toujours une espèce de petite trahison qu'on a toujours besoin d'expliquer. Hein, voilà.
Wassila Tamzali.
Je crois que, en tant que femme, à un moment donné, Assia était tellement en avance par rapport à beaucoup de questions qu'elle avait envie d'aller vivre sa vie de femme, et voilà. Et elle l'a fait, elle avait quoi, 30 ans, et c'était intelligent de sa part de le faire à ce moment-là. Bon, elle a choisi d'aller à Paris, son mari était à Paris aussi, il s'occupait de culture, je crois qu'ils ont même fait du théâtre ensemble, Assia a fait du théâtre. Je crois qu'elle m'a dit un jour qu'elle avait monté une pièce sur Marilyn Monroe, dans un petit théâtre à Paris. Ça aurait été intéressant de retrouver le théâtre à Paris où elle a monté Marilyn Monroe. Je la vois bien, Marilyn Monroe d'ailleurs.
Pendant 10 ans, entre 1965 et 1975, Assia Djebar restera loin de l'Algérie. Elle y revient au milieu des années 70 pour enseigner l'histoire du cinéma et tourner deux films, La Nouba des femmes du Mont Chénois et La Zerda des champs de l'oubli.
Voici ton pays, ces montagnes, nous y avons été libres.
Ahmed Bedjaoui sera son producteur.
Entre 76 et 76, elle s'était arrêtée un peu d'écrire parce que l'ambiance d'Alger était un peu à l'arabisation, complexait les auteurs et écrivains de langue française. Et on se souvient que Kateb Yassine ou Malek Haddad, à cette époque-là, avaient cessé d'écrire en français et s'étaient tournés vers le théâtre ou vers l'expression orale. Donc, Essia Djebar était un peu dans cette espèce d'incertitude. Et en 1976, elle a présenté un projet au directeur général de la télévision, et j'ai pris en charge ce projet. Le cinéma lui permettait de retrouver les langues vernaculaires, le langage des femmes du Mont Chénois, le langage des femmes sur lesquelles elle avait fait des reportages à Tunis, le langage des femmes, et à ce moment-là, elle a demandé aux femmes de raconter leur vision de la guerre de libération.
Sia, c'est une plasticienne, peut-être encore plus qu'une écrivaine, et que, mais elle n'a pas réalisé les films qu'elle voulait. Quand on pense qu'elle a déposé 5 projets de films et qu'ils ont été refusés les 5, on a envie de pleurer, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, si elle avait réalisé 5 films, en plus de cela, ça aurait fait un patrimoine extraordinaire culturel pour l'Algérie. Parce que quand on voit ces films, ah, c'est des films difficiles.
Qu'est-ce qu'ils racontent, ces films, justement?
Alors, La Nouba, c'est un film où Assia va aller à la recherche dans la montagne, elle va rencontrer toutes ces femmes qui racontent leur vie, leur guerre d'Algérie, qui racontent des contes, qui, etc. Et à un moment donné, elle les fait danser dans une grotte. C'est vraiment très, très beau. Et il y a une très jolie scène dans un lit en fer forgé où la grand-mère raconte à la petite fille un conte. Et devant, il y a une autre grand-mère qui raconte à la petite fille un conte. Et devant, il y a une autre grand-mère, devant. Et on a comme ça en perspective ces grand-mères qui racontent des contes. Et Assia, elle travaillait beaucoup sur les matières, c'est-à-dire qu'il y avait des peaux de mouton blancs, il y avait des laines blanches, il y avait de la soie blanche, pour donner cette espèce de rêve ouaté d'un paradis perdu. Et c'est l'histoire de l'héroïne, qui est un peu Assia Djebar d'ailleurs, et elle vient avec son enfant, une fille, et son mari qui est dans une chaise roulante, handicapé. Qu'il a et d'une certaine manière, puisqu'il ne peut pas la posséder, puisqu'il est impuissant, puisqu'il est dans cette chaise. Bon, alors là, déjà, on voit un peu la charge féministe du film. Hein. Et d'ailleurs, quand elle va présenter son film à la Cinémathèque, les féministes officielles, disons, celles qui sont engagées dans la révolution agraire, dans tous les grands thèmes de la révolution socialiste, vont lui reprocher d'avoir fait un film personnel. C'est-à-dire que Assia, elle arrivait avec ce jeu, J-E, hein, tellement développé en elle, tellement fort, devant des gens qui ne savaient pas ce que c'était. Nous ne savions pas ce que c'était.
Algérienne qui s'est très mal passée parce qu'elle a été agressée, des gens qui lui ont dit vous mettez un seul homme, il est handicapé, c'est une humiliation, les femmes, il n'y a que le point de vue des femmes, il y avait aussi, on lui avait collé une étiquette d'intellectuelle bourgeoise, je crois qu'on confondait un peu citadinité et bourgeoisie dans un moment où la ruralité, avec la révolution agraire et tout, était tout à fait un dogme dominant, quoi, voilà. Et donc ça s'est mal passé, je peux même vous dire qu'il y a eu des pétitions de cinéastes qui ont circulé contre elle, et le film a été présenté à Venise, et ça a été une standing ovation de 10 minutes, donc elle a eu ce prix. C'est en tout cas une des premières femmes arabes à avoir accédé à ce statut de réalisateur, et ça a été évidemment un choc dans un milieu qui était assez machiste, quoi. Il faut dire une chose qui est importante, c'est que le fait de filmer, c'est comme si elle disait, ça y est, je ne suis plus colonisée, je me suis libérée des contraintes de la langue, je choisis la langue française pour écrire et je choisis l'arabe pour m'exprimer, pour faire des films. Donc c'est une nouvelle Assia Djebar qui émerge de là, qui est réconciliée avec elle-même et qui va en France parce qu'elle a décidé d'écrire en français. Elle pensait que, de toute façon, les meilleures conditions étaient certainement offertes en France, plus ou en Europe, en Occident, plus qu'en Algérie.
Dès mon adolescence, j'ai expérimenté une sorte d'aphasie amoureuse. Les mots écrits, les mots appris, faisaient retrait devant moi dès que tentait de s'exprimer le moindre élan de mon cœur. Lorsqu'un homme de ma langue d'origine pouvait, me parlant français, se permettre une approche, les mots se transformaient en un masque que, dans les préliminaires du jeu esquissé, l'interlocuteur se résignait à prendre. C'était lui, en somme, qui se voilait pour oser avancer vers ma personne. Si je désirais soudain, par caprice, diminuer la distance entre l'homme et moi, il ne m'était pas nécessaire de montrer par quelques mimiques mon affabilité. Il suffisait d'opérer le passage à la langue maternelle, revenir pour un détail au son de l'enfance.
Et donc la langue française et la culture littéraire française lui a donné cette possibilité de dire les choses, y compris l'intime, de façon peut-être plus détachée, hein, puisque de toute façon, c'est la langue de l'autre.
Elle écrit dans la langue de ce qu'on appelle l'ennemi français. Et elle va l'apprendre comme un outil de libération, oui, bien sûr, aussi. Finalement, elle en fait sa langue de l'affirmation du jeu.
Nassima Bouguerara.
L'arabe dialectal qu'elle parlait, d'ailleurs l'arabe familier, l'arabe algérien, il y a une pudeur, il y a une décence à ne pas s'affirmer comme à la première personne. Et on retrouve cette espèce de dédoublement tout au long de son œuvre. Français, arabe, arabe, berbère, francophone, arabophone, démocrate, intégriste, Algérie, France, femme, homme. Effectivement, elle est dans cette lutte permanente qui parfois, quand elle parle des femmes, quand elle parle de la société algérienne, de toutes ces fractures qui ont agité les populations d'Algérie, on peut penser effectivement même à de la schizophrénie.
Fût-ce d'avoir porté cette robe, ma vraie première, dont le souvenir persiste en moi, trace de vive coquetterie d'adolescente qui me donna le courage d'accepter l'invite. À l'acmé de la fête, au cœur de la maison des filles de Soliman, pleine à craquer d'une foule d'invités, oui, d'accepter de me dresser, le dos et les bras nus devant toutes, quelques minutes après de m'oublier pour chevaucher le rythme et découvrir le plaisir neuf du corps, malgré le public et ses yeux, dans cette demeure la plus ancienne, où autrefois la grand-mère pénétra en jeune épousée, tandis que mon attention s'exacerbe dans les renversements et les torsions de mes hanches, de mes épaules, dans la liberté mouvante de mes bras lianes, oui, de dédaigner les parentes, spectatrices se muant en un seul être multiple, vorace, bourdonnant.
Une Algérienne sous la coupole, l'écrivain et cinéaste Assia Djebbar s'assoit dans le fauteuil du doyen Henri Wedel.
16 mai 2005, Assia Djebbar entre à l'Académie française.
Ce sera important pour la francophonie, en particulier au Maghreb. Et puisque je suis écrivaine femme, je pense aussi que ce sera un encouragement pour les femmes au Maghreb et en Algérie qui écrivent souvent en français alors que comme moi, elles peuvent vivre familialement dans la langue arabe ou pour certaines dans la langue berbère. Donc c'est une sorte d'encouragement vraiment pour la francophonie.
Comment est-ce que vous pensez que votre élection va être prise en Algérie ?
Eh bien, je pense qu'elle va être prise comme un signe positif pour la francophonie qui doit continuer à être encouragée en Algérie. Et ça, j'en suis sûre, étant donné qu'on est sorti de la période obscurantiste des années 90 où des francophones de mes amis l'ont payé de leur vie.
Quand on s'approche un peu de cette institution hors du temps qu'est l'Académie française,
et de ces rituels qui tournent à vide, on se demande vraiment ce qui a bien pu faire envie à Assia Djebar.
Alors on quitte la coupole et on va retrouver Pierre Nora qui nous attend dans un salon de la bibliothèque de l'Académie.
Pourquoi j'ai pensé à l'Académie pour elle ? Il faut dire qu'il venait d'y avoir un échec grande personnalité de la francophonie, tout à fait injuste, et l'Académie voulait se rattraper en faisant un geste vis-à-vis de la francophonie. J'en ai parlé à Christian Bougrat, il m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez jamais pensé à Assia Djebar ?» C'était une Algérienne, et à cet égard-là, elle fermait la porte de la guerre d'Algérie, et elle rendait justice à une grande partie de la littérature française algérienne qui n'avait jamais été honorée, dont elle était en quelque sorte l'héritière. C'était une femme et c'était une musulmane, si j'ose dire, très modérée vis-à-vis du monde musulman. Donc c'était une excellente prise de guerre. En plus, elle n'était pas tellement connue en France, mais elle l'était beaucoup à l'étranger. Elle venait d'avoir le prix de la paix à Francfort. On parlait plus ou moins d'elle dans la liste du prix Nobel. Et je lui ai téléphoné. Et quand je lui ai dit « Vous avez jamais songé à l'Académie française ?», j'ai cru qu'elle allait s'évanouir ou qu'elle croyait que je me moquais d'elle. Parce qu'il faut dire que c'était pas tout à fait le style de l'Académie, la chère Assia. Et je peux dire qu'effectivement, j'ai fait sa campagne parce qu'elle était d'une maladresse insensée et que partout elle arrivait en retard d'une heure, restait deux heures sans bouger, alors qu'une visite, ça doit durer trois quarts d'heure, pas plus, et qu'elle arrivait avec son étrange petit bitos sur la tête et ses patogas. C'était pas du tout le style de l'Académie. Eh bien, au premier tour, elle a eu le nombre de voix qu'il fallait pour passer. Ça a été une sorte de triomphe.
Je ne crois pas qu'elle ait eu très envie de rentrer à l'Académie.
Nassima,
elle
l'a fait. Bougérara.
Tout en sachant très bien aussi qu'en Algérie, les nationalistes, les indépendantistes de la dernière minute ou l'arrière-garde allaient condamner cette reconnaissance.
La langue française, la vôtre, mesdames et messieurs, devenue la mienne, tout au moins en écriture.
Nous en avons beaucoup parlé, parler de l'achat de l'épée, rentrer ou pas avec le sabre, avec tout ce que cela signifie comme symbole historique. Et elle a choisi, elle a choisi son épée.
Espace de ma méditation ou de ma rêverie, tempo de ma respiration au jour le jour.
C'est une épée qui ressemble à l'épée que portaient les hommes de l'émir Abdelkader. Ce n'est pas le sabre des conquérants.
Ce que je voudrais esquisser en cet instant, où je demeure, silhouette dressée sur votre seuil.
Je pense
seuil.
Que peut-être, au fond d'elle, très fatiguée comme elle commençait à l'être à ce moment-là, surtout par les 10 dernières années de massacres, de désastres algériens.
M'avait saisi la sensation presque physique que vos portes ne s'ouvraient pas pour moi seule, ni pour mes seuls livres, mais pour les ombres encore vives de mes confrères.
Je crois que ça a été peut-être pour elle gratifiant.
Intellectuels, femmes et hommes d'Algérie qui, dans la décennie 90, ont payé de leur vie le fait d'écrire.
Ce fut comme un moment de gratification personnelle.
Tout simplement.
Et c'est quand même sous la coupole qu'elle rend hommage, non seulement aux morts de l'époque coloniale, mais aussi aux derniers morts des années 90 à 2000.
Mais finalement, Pierre Nora, est-ce que l'Académie était vraiment en mesure de faire une place à Assia Djebar et de l'accueillir vraiment pour ce qu'elle était ?
Je ne sais pas si elle s'est sentie à sa place. Je ne crois pas. Elle a eu l'impression d'un monde dont peut-être une partie, en fait, ne l'admettait pas. C'était une femme d'une très grande susceptibilité, très bavarde, ne connaissant pas très bien les manières, si j'ose dire, civiles. Il y a eu tout un groupe déterminé qui avait voté contre elle. Et cela était franchement hostile en y voyant effectivement le fourrier de la rébellion. Mais ça aurait pu marcher. Et puis, il y a eu, disons-le, dès le début, au moment de sa réception, un petit problème. pour son costume. Elle avait voulu, en dépit du costume officiel, qu'on s'inspire un tout petit peu de la veste de mariage de sa mère, qui était une berbère. Et je comprends très bien que symboliquement, elle ait été attachée à l'idée de cette filiation maternelle. Mais le costume a été un peu trop chamarré et du coup, c'est Pierre Berger qui, avec beaucoup d'élégance, a fait en 8 jours une robe qui était la même qu'il avait fait pour Yourcenar. Et elle avait de l'allure, mais c'était une robe noire et assez austère. Et je me souviens que quand je lui l'ai vue avec cette robe, je lui ai dit « ça vous va très bien, mais... » Évidemment, elle m'a dit c'est une robe de deuil pour un jour de deuil.
Elle a eu envie de franchir le seuil de cette grande maison. Et ce qui l'a intéressée, c'est ce franchissement. C'était une femme de défi. Elle aimait les défis. Écrire de grands romans, enseigner l'histoire, écrire l'histoire de l'Algérie. Et entrer à l'Académie française, c'était un défi. Et c'est un défi en tant que romancière d'abord. En tant qu'Algérienne, certainement, oui, elle franchit le seuil d'une institution, une grande institution française. Mais a-t-elle vraiment habité l'Académie? Je n'en sais rien. En tant que romancière, elle a dû probablement, après ce franchissement, chercher d'autres défis.
Ainsi je cours, je dribble d'un côté, de l'autre, imaginant la joueuse adverse, multipliant les ruses contre l'adversaire virtuel. Après un premier demi-cercle, ainsi courbé, allant et venant d'un côté puis de l'autre, l'ultime effort s'épuisait dans un brusque jaillissement de mon corps vers l'azur, dans la détente des jambes, des hanches, des bras dressés vers le ciel, soudain si vaste. La force des muscles, ainsi décuplée, projeter le ballon avec la violence maxima, pas toujours avec l'exactitude efficiente. Le ballon entre sec dans le panier ou au contraire, le rate de justesse.
En 2007, Abeïda Chiki, elle sort son dernier livre, « Nulle part dans la maison oui. de mon père ». C'est un livre très fort, très particulier. En quoi est-ce qu'il compte particulièrement dans sa bibliographie ?
Tout ce qu'elle a écrit jusqu'à présent, elle l'a écrit sous la pression de la société, la pression de l'Algérie, peut-être également la pression universitaire. Nulle part dans la maison de mon père. Pour moi, c'est un livre qui reprend un petit peu cette existence, qui corrige peut-être certains aspects qui n'ont pas été abordés de manière directe dans ses autres romans. Elle utilise dans ses autres romans des détours, alors que dans Nulle part dans la maison de mon père, c'est des mises au point à partir de cet événement traumatique.
En un éclair, mon regard aperçoit le tramway qui arrive en trompe. La machine est lancée, bondissante, bienheureux monstre. Mon but, enfin, m'anéantir là-bas, là où la mer est si lointaine, pour y dormir. Une dernière volée de marche à dévaler, tout près. La motrice fonce. En une seconde, mon projet a mué. Les rails, m'y coucher, tout sera plus vite accompli. Parvenu tout en bas, résolu, gai, tout désespoir dissipé, vais-je traverser l'avenue? Non, me coucher là en diagonale sur les rails. À l'ultime seconde, j'ai imaginé mon corps de jeune fille coupé en 3.
Dans Nulle part dans la maison de mon père, elle dit que tout ce qu'elle a écrit, c'est des mensonges et que ça compte pas.
Oui, à la fin du livre, on a la sensation qu'elle avoue qu'elle a menti toute sa vie. Il y a quelque
Exactement.
Chose de très troublant.
Parce que, en réalité, ce qu'elle a voulu cacher, c'est cette grande blessure qu'elle a eue enfant. Et qui, ensuite, d'ailleurs, elle va. Il y a un deuxième épisode quand elle veut se suicider. Parce qu'elle se rend compte que ce jeune homme, qu'elle va épouser d'ailleurs pendant 20 ans, que ce jeune homme, en fond, c'est un macho, quoi. C'est un grand macho, prétentieux, autoritaire. et que tout d'un coup elle le regarde et qu'elle le reconnaît pas du tout. Elle reconnaît pas celui qu'elle avait construit, imaginé dans sa tête. Là, à la fin, elle se révolte contre elle-même. Et elle se dit que, au fond, elle a triché toute sa vie. Et que tous ces personnages qu'elle a inventés, c'est des masques, au fond, et des paravents derrière lesquels elle s'est cachée. Mais si elle avait commencé par le dernier livre, là, on avait entre les mains l'ouverture d'une voie royale. Pas seulement pour les femmes, pour la liberté. C'est-à-dire que là, elle nous conduit dans ce livre à la limite qu'elle n'a pas pu dépasser et que nous n'arrivons pas à dépasser. On est toujours à l'intérieur de cette limite. Et je crois qu'Assia, dans son dernier livre, c'est le cri qu'elle lance, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à se libérer.
Le plus dur pour elle, c'est quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus écrire. Et elle s'était mise, elle disait « je lis ». Donc c'est vrai, la dernière année, non, plus rien n'était possible, mais les deux années d'avant, je lui disais « qu'est-ce que tu fais ?» Elle me disait « je lis, j'ai tellement de retard, j'ai passé mon temps à écrire et j'ai très peu, enfin ces dernières années, j'ai pas lu ». Je ne peux pas dire qu'elle est vraiment un public ancien en Algérie. Je pense que ces dernières années, oui. Ce qui a dû jouer d'ailleurs, c'est son élection à l'Académie française. Depuis son élection, je trouvais dans toutes les librairies tous ces livres en livre de poche. Mais je ne suis pas sûre que sa littérature est vraiment marqué, en tout cas, le milieu qu'elle voulait toucher, c'est-à-dire les femmes des classes populaires. Je pense qu'elle aurait voulu, c'était que ces livres soient même lus à la radio dans l'arabe algérien, dans le berbère. Je pense que c'est ce qui lui aurait plu pour toucher les femmes.
Ce terme de mini-révolution que j'applique à notre arrivée à Alger, peu avant septembre 1953, se justifie par un détail. Ma mère, qui allait fêter ses 36 ans, se métamorphosa en quelques mois en occidentale d'une élégance discrète, toujours soignée, bien coiffée. Par secrète fierté, plus que par vanité, elle conquit son autonomie de citadine, passant inaperçue par une allure soudain européenne dans notre quartier où le petit peuple allait et venait autour d'un grand marché. C'est ainsi que le beau voile de soie qui la dissimulait naguère au village aux yeux de tous et qu'elle ne quittait pas même dans la voiture qui nous menait durant les vacances à Césarée fut dès le premier jour définitivement pliée et reléguée au fond d'une armoire.
Merci à Wassila Tamzali, Sakina Bouchama, Beida Chiki, Michel Perrault, Christiane Clapiche-Zuber, Ahmed Bedjaoui, Nassima Bouguerara et Pierre Nora. Merci aussi à Claire Delannoy, Fela Madaoui, Albin Michel, Actes Sud, l'Académie française, Jean-Marie Pasqualini, Fadila Méal et Charles Bonne. Extrait de Vaste et la prison, L'amour, la fantasia et Nulle part dans la maison de mon père, lu par Manuela Morgan, extrait de la Nouba des femmes du Mont-Chénois. Prise de son, Étienne Leroy et Philippe Étienne. Mixage, Philippe Bredin. Assia Djebar, une écriture de l'entre-deux. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, nous serons avec celui dont on a retenu l'adage « Less is more », Miss van der Rohe.